13h, Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marina.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée et meilleurs voeux à tous en ce début d'année 2019. À la une, les gilets jaunes de nouveau dans la rue à Paris pour l'acte 8 de leur mobilisation. Ils sont quelques centaines entre les Champs-Élysées et la place de la Bourse. Manifestation autorisée. Quelques rassemblements en région aussi comme à Nice où ils sont nettement moins nombreux mais toujours déterminés. À Marseille, la réunion dans les locaux prêtés par Bernard Tapie a montré leur difficulté à se structurer. Et nous le verrons, tout le monde n'était pas le bienvenu ce matin. L'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes, on en reparlera avec mon invité Benjamin Moret, docteur en sciences politiques à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Toujours dans le journal de la mi-journée, 15e jour de shutdown aux États-Unis et Donald Trump dit que ça pourrait durer des mois, voire des années. Le journal des sports, 32e de finale de la Coupe de France de football. Pontivy dans le Morbihan en ébullition avec ses deux clubs amateurs toujours en compétition. On y reviendra aussi longuement dans Tout Terrain jusqu'à 14h. Tout Terrain où l'on parlera aussi du record d'affluence au Louvre. La météo, le froid sur toute la France avec une exception, les régions méditerranéennes où il fera jusqu'à 14 degrés.
Europe 1.
Acte 8 donc de la mobilisation des Gilets jaunes et journée test pour ce mouvement après la période des fêtes. Une fois encore, les Champs-Élysées à Paris sont le principal point de ralliement avec une manifestation déclarée en préfecture et donc autorisée. Vous suivez le cortège Romain Auquet, un cortège qui est déjà en marche vers la place de la Bourse.
Oui, quelques centaines de gilets jaunes qui déambulent par petits groupes pour rejoindre la place de la Bourse dans le 2e arrondissement de Paris. Un cortège calme, sans débordement, les commerces sont restés ouverts, même si plusieurs avenues ont été fermées à la circulation au passage des manifestants. Les gilets jaunes sont partis des Champs-Élysées où ils s'étaient donné rendez-vous à 10h ce matin. Parmi eux, Rémi, il est resté mobilisé pendant la période des fêtes, mais pour lui, ce premier samedi de 2019 a un symbole dans la mobilisation.
Toutes les réformes vont commencer à se mettre en place. On a le prélèvement à la source, tout ce qui est CICE, la CSG. On voit déjà sur les fiches de paie qu'on commence à être raquettés. On montre au président qu'en fait, ce n'est pas les fêtes qui nous ont essoufflés. Et ce n'est pas les miettes qu'il nous a données il y a 15 jours qui vont nous calmer.
Dans le cortège, beaucoup ont en effet critiqué le discours d'Emmanuel Macron le soir du 31 décembre pour les vœux. Une exaspération qui s'est transformée en motivation pour beaucoup de ces gilets jaunes. Tout comme l'arrestation du leader Éric Drouet dans la semaine que beaucoup de gilets jaunes ne comprennent pas. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Marie-Christine à faire le trajet depuis la Seine-et-Marne ce samedi. Même si elle l'admet, elle s'attendait à plus de jaunes.
Moi, j'étais partie ce matin dans l'idée qu'il y aurait beaucoup de monde. J'espère que ça va arriver. Moi, j'appelle à ce que les gens viennent se joindre à nous. Même ceux qui ont l'impression que c'est perdu, non, il n'y a rien. Tant qu'on est en masse, rien n'est perdu parce qu'eux ont les milliards, nous, on est des millions. Voilà, c'est ça le mot d'ordre.
Beaucoup misent en effet sur une plus forte mobilisation cet après-midi. Un rassemblement déclaré en préfecture est prévu à 14h à l'hôtel de ville avant un départ en direction de l'Assemblée nationale.
Romain Auquet, voilà pour la mobilisation à Paris, on le voit, qui s'essouffle. Qu'en est-il en région ? La semaine dernière, 12 000 manifestants avaient été recensés à travers toute la France à midi. On prend la direction de Nice où l'on retrouve Jacques Terrance. Les gilets jaunes que vous avez rencontrés, Jacques, sont toujours aussi déterminés, mais là aussi nettement moins nombreux.
Oui, d'ailleurs, ces gilets jaunes sont forcés de le reconnaître. 200-250 personnes, grand maximum, manifestent en ce moment sur les avenues commerçantes de Nice. C'est deux fois moins qu'avant les fêtes de fin d'année, mais légèrement plus que la semaine dernière. Dans le cortège, de nombreux retraités et beaucoup de gilets jaunes un peu déçus, comme Tina, de cette mobilisation en baisse.
On lâche rien ! On lâche rien !
À déterminer depuis le 17 novembre, où j'ai géré avec 2500 piétons gilets jaunes.
Vous êtes beaucoup moins nombreux là par contre.
Oui, mais parce qu'il y a eu les fêtes. Puis bon, il y en a au bout d'un moment, ils lâchent. Hein, c'est comme tout. Hein. C'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pour eux aussi, hein, pour leurs enfants, pour nos petits-enfants. Parce que si on lâche là-haut, ils vont être tous heureux. Donc non, on lâchera pas et on lâchera rien.
Mais ce sont souvent les plus mobilisés qui restent, comme Laurence avec sa grande pancarte hérissée collée sur son gilet jaune.
Il vaut mieux que nous soyons
100 Gaulois réfracteurs qui est 1000 qui se promènent. Donc voilà, maintenant ce sont les plus durs qui restent. Nous allons corser le mouvement, nous n'allons pas rester à de la marche. On est là pour défendre nos droits. Et s'il faut rester encore 8, 9, 10, 15 samedi, on sera là. L'important c'est que les citoyens nous voient et se disent ils ne lâchent pas le mouvement. Et pour soi-même aussi, ben, il faut qu'on soit un peu fiers de ce qu'on fait. Non, rien ne nous découvrira, Jean. Rien.
Voilà, et sur la Côte d'Azur, d'autres manifestations des Gilets jaunes ont lieu en ce moment, mais elles ne dépassent pas à chaque fois les 30 à 40 personnes.
Et Jacques Terrance à Nice pour Europe 1. On prend maintenant la direction de Marseille. Tout l'enjeu depuis plusieurs semaines pour les Gilets jaunes, avec une mobilisation, on le voit qui s'essouffle, c'est de se structurer. D'où cette réunion dans les locaux du journal La Provence, à l'invitation de Bernard Tapie, le principal actionnaire du journal ce matin. Stéphane Frangy, vous êtes sur place. On peut dire que se structurer, ça ne va pas être évident car ce matin, tout le monde n'était pas le bienvenu.
Oui, mauvaise surprise devant la grille d'entrée. Tout à l'heure, plusieurs dizaines de gilets jaunes, comme Michel Dubousquet, ont trouvé porte close, interdiction d'entrée. Résultat, cette réunion inspire déjà de la méfiance.
On ne peut pas rentrer alors qu'on veut rentrer et qu'on veut participer. On est rejeté, donc ça veut dire que c'est des récupérateurs. C'est dommage, oui, effectivement. On était un petit peu venus pour ça. On connaît les personnes qui sont à l'intérieur. Mais bon, ils essayent de se récupérer un mouvement pour eux. Je vois pas l'intérêt, quoi. Alors que nous, on veut que ce soit représentatif et que tout le monde en profite. Alors que là, non, pas du tout. Enfin, de faire démarrer ce mouvement qui piétine.
Tous les mouvements de gilets jaunes du département n'étaient même pas informés. Une partie de ceux refoulés ce matin sont donc partis rejoindre le cortège de la manifestation en centre-ville. Et d'autres ont fait le pied de grue ici pour maintenir la pression sous l'œil des caméras.
Attends. J'irai après moi. On me laisse rentrer. Oh, je vous laisse, excusez-moi.
Ce qui a fini par payer, vous l'entendez. Alors du côté des organisateurs, on explique ce filtrage pour des raisons de logistique et le compte-rendu de cette réunion sera révélé tout à l'heure aux alentours de 15h.
Et Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1. Alors pour l'instant, pas de décompte officiel sur le nombre de manifestants à travers la France pour cet acte 8. Notez qu'en Lorraine, une cinquantaine de gilets jaunes ont tenté hier soir de bloquer le siège du journal L'Est Républicain. 4 personnes ont été interpellées. Et puis en Saône-et-Loire, toujours hier soir, ce sont 18 gilets jaunes qui ont été placés en garde à vue alors qu'ils tentaient de bloquer la plateforme logistique d'Amazon à Sevrais. L'acte 8 des gilets jaunes, on y reviendra dans un instant avec mon invité Benjamin Moret, docteur en sciences politiques.
Europe 1, il est 12h37.
À l'étranger, c'est toujours l'impasse aux États-Unis pour trouver un accord sur le budget. 15e jour de shutdown. Et hier, les discussions entre Donald Trump et les démocrates n'ont rien donné. Le président américain a même menacé, dit que cela pourrait durer des mois, voire des années, si on ne lui donne pas les moyens de construire son mur à la frontière mexicaine, Pauline Jacquot.
Oui, une formule choc pour marquer sa position. Trump est intransigeant, il veut à tout prix faire construire ce mur. C'est une question, selon lui, de sécurité nationale. Face à des démocrates qui jugent ce projet immoral, le président n'exclut pas de déclarer l'état d'urgence dans le pays. Il peut le faire. Les conditions sont réunies, souligne le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana.
Il faut qu'il y ait un événement soudain, imprévu et d'une durée inconnue, et on l'a bien. La seconde, c'est qu'il faut qu'il y ait un danger public, une menace pour la vie des personnes. Et c'est pour ça qu'il ne cesse de parler de la sécurité à la frontière. La troisième, c'est qu'il faut qu'il y ait une nécessité d'une action des pouvoirs publics qui soit immédiate et qui ne puisse pas être donnée par la légalité ordinaire. Et on l'a également, puisqu'il y a blocage au Congrès. Donc Donald Trump pourrait effectivement s'accorder l'état d'urgence et donc ensuite prendre de l'argent, par exemple, au ministère de la Défense, qui est richement doté pour pouvoir construire son mur.
À qui va tenir le plus longtemps cette bataille du mur ? Prend évidemment un tournant très symbolique après les élections de mi-mandat où les deux camps ont crié victoire, démocrates et républicains. Cette lutte politique en ce moment au sommet de l'État pourrait donc devenir une sorte d'étalon, un marqueur du rapport de force des deux prochaines années.
Pauline Jacquot, et puis toujours aux États-Unis, une fusillade a fait plusieurs victimes dans un bowling en Californie cette nuit. Cela s'est passé à Torrance, à une trentaine de kilomètres de Los Angeles. Pour l'instant, les autorités parlent d'une grosse bagarre qui aurait précédé des coups de feu. À suivre, l'Europe divisée sur l'accueil des migrants. Des ONG parlent d'un record de honte face au refus d'accueillir une trentaine de personnes en mer depuis presque 2 semaines maintenant.
Votre journal de la mi-journée avec vous, Fabienne Lemoyle.
Plusieurs ONG sont montées au créneau hier pour dénoncer l'attitude des pays européens sur la prise en charge des migrants. Un collectif d'associations humanitaires parle même de nouveaux records de la honte alors qu'une trentaine de migrants attendent en Méditerranée depuis 14 jours à bord d'un bateau qui n'a reçu aucun feu vert pour accoster dans un port. Parmi les ONG qui se mobilisent pour venir en aide aux migrants, il y a Pilotes Volontaires. C'est une association créée par deux hommes, deux pilotes, avec leurs propres économies. Avec leur avion, ils survolent les côtes libyennes pour indiquer aux bateaux de sauvetage la position de canaux en perdition. C'est ce qu'a expliqué Benoît Micolon, l'un des fondateurs de l'association, à Victor Dolande.
En face des côtes libyennes, il faut le savoir, cette partie-là de la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière d'exilés au monde. À partir de là, en tant que pilote professionnel, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour limiter cette hécatombe. Et en se mettant en contact avec les ONG françaises, espagnoles puis allemandes, qui affrètent des bateaux pour venir au secours de ces personnes, ils nous ont tous confirmé rencontrer d'énormes difficultés pour repérer ces petites embarcations en détresse qui flottent au ras de l'eau en haute mer. Quand on a eu la confirmation qu'ils ne bénéficiaient d'aucun appui aérien, on leur a proposé de leur fournir. En 2018, Pilotes Volontaires, depuis le lancement des opérations en mai dernier, nous avons pu repérer 45 bateaux, avec à leur bord un peu plus de 4000 personnes au total. Nous nous devons de pouvoir voler le plus souvent possible pour contribuer à sauver plus de vies. Notre objectif principal va donc être de continuer à collecter des fonds afin d'être le plus présent possible au-dessus de la mer aux côtés des bateaux de secours.
Benoît Micolon, l'un des fondateurs de Pilotes Volontaires avec Victor Dolande. Une question pour terminer en cette période de nouvelle année, la traditionnelle question des étrennes. Combien donner à sa nounou, à son gardien? Vous allez le voir, la tradition semble se perdre un peu comme de la neurie.
Pour réceptionner des colis ou garder des clés, l'aide du gardien de l'immeuble est souvent bien pratique. Et pour le remercier, on a jusqu'au 31 janvier, selon la tradition, pour lui verser des étrennes. Pas question de manquer ça pour certains.
Comme on donne pour les pompiers quand ils passent dans les immeubles, et puis pour une façon de les remercier de tout ce qu'ils font pendant l'année.
Elles rendent toujours des services, on est bien content de les avoir. Elles sont payées pour ça, ceci dit. Hein. Mais bon, c'est une tradition.
Les jeunes ont plus de mal.
Je ne fais pas ça, je donne à personne.
Du tout, non. Il faut le faire, mais après, il faut penser à le faire. Et on n'y pense pas toujours.
Alors, de plus en plus, on offre des bouteilles ou des boîtes de chocolat. Le vieil usage, c'est 10% du loyer mensuel. Mais aujourd'hui, les gardiens ne comptent plus vraiment dessus. Jean a 74 ans, 25 passés comme gardien. Il relativise.
Ils donnent ce qu'ils veulent. Hein. Ce qu'ils veulent. On n'est pas difficile. Quand on reçoit, il ne faut pas être difficile.
Les syndicats de gardiens conseillent tout de même plutôt une petite enveloppe. Mais les gens sont aussi fauchés que nous, me confie une concierge.
Comme de l'ânerie.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Année 2019, début véritablement pour le monde du football. C'est la reprise en France avec la Coupe de France aujourd'hui.
Les 32e de finale, effectivement, ce week-end. Alors hier, Nantes en ouverture a écrasé Châteauroux 4-1. Grenoble-Strasbourg, le match a en revanche été reporté. Et puis aujourd'hui, de nombreuses rencontres prévues, évidemment. Alors parmi les gros clubs engagés, Guingamp, club de Ligue 1, qui se déplace à Pontivy, enfin qui va recevoir Pontivy parce que le match aura lieu au stade du Roudourou. Pontivy, qui va même vibrer deux fois ce week-end, puisque la ville joue avec deux clubs engagés. Demain, l'autre club de la ville affrontera le PSG. Julien Froment, vous êtes notre envoyé spécial et l'ambiance monte tout doucement aux abords de l'hôtel de ville à Pontivy.
Oui, ils étaient plusieurs centaines ce matin devant l'hôtel de ville, écharpe autour du cou, maillot du stade pontivien sur les épaules, prêt à supporter leur équipe. Juste avant de prendre le quart, direction Guingamp, cette famille habillée de la tête aux pieds en jaune et noir se voyait déjà dans les tribunes du stade du Roudourou.
Hâte d'y être forcément, de supporter les gars et puis d'essayer d'apporter la meilleure ambiance possible.
Et vous, vous y croyez ?
À fond. C'est une vraie famille, on est depuis longtemps supporters du stade pontivien. Et c'est vrai qu'on était là pour leur départ, on les a vraiment boostés un maximum, tout est possible.
Et toi, t'y crois ?
Oui, bien sûr, bah moi je suis partie du club et j'y crois fort, on est derrière les joueurs.
Tu donneras quoi comme pronostic ?
2-1. Pour Stade Pontivien.
Et les supporters se sont organisés comme des pros. Des feuilles avec des chants ont été distribuées. Tambours, mégaphones, banderoles, bref. La parfaite panoplie pour être le 12e homme. Ils sont en ce moment dans le quart. Arrivée prévue pour Guingamp en début d'après-midi. Coup d'envoi à 15h.
Julien Froment.
Et Julien Froment qu'on retrouvera dans Tout Terrain à partir de 13h justement pour revenir sur ces deux clubs amateurs, ce qui est assez inédit quand même en Coupe de France.
Et autre affiche à 15h aujourd'hui, Orléans reçoit le club de l'Aiglon du Lamentin, équipe venue de Martinique et seul club d'outre-mer encore en lice. C'est une première depuis 30 ans, un club d'outre-mer d'outre-mer présent à ce stade de la compétition, José Goron est l'un des joueurs qui affrontera Orléans cet après-midi.
C'est le péché mignon en tant qu'amateur, c'est la concentration. C'est vrai que tactiquement, on est en retard par rapport à eux parce que eux, ça sent football, ça joue football pratiquement toute la semaine. Nous, on s'entraîne pratiquement 3-4 fois par semaine, mais pratiquement le soir, on a le travail là, le matin. C'est sûr que nous, il faut qu'on soit super concentré. Et puis, je pense qu'un entraîneur va mettre un plan de jeu en place pour pouvoir contrecarrer les plans de l'équipe de Lorient pour essayer de faire un résultat et bien représenter la Martinique.
José Goron, joueur de l'Aiglon du Lamentin, au micro d'Axel May. Ce soir, Bourges reçoit Lyon, c'est à 20h. 21h à suivre dans Europe 1 Sport.
Un mot de rugby, le top 14 continue. Il faut dire qu'il n'avait pas fait de trêve.
Et non, pas de repos pour les rugbymen. Première affiche dans moins de 2 heures pour cette nouvelle journée. Le Stade français 7e reçoit Perpignan, dernier du classement. L'occasion pour le Stade français de sortir de cette période de fête avec une nouvelle victoire. Prendre des points aussi avant que certains joueurs ne rejoignent l'équipe de France pour la préparation du 6 Nations. Laurent Sempéré.
J'ai envie qu'on continue à être sur nos objectifs comme on l'est à l'heure actuelle, même si tout n'est pas toujours rose et il y a des fois des choses qui sont un peu difficiles à vivre. Mais en tout cas, on est pour le moment dans les clous. Il faut que ça continue et qu'on soit capable d'accélérer. Là maintenant, il nous reste ce match contre Perpignan qui est très important. Et pendant le tournoi destination, quand on aura, j'espère, beaucoup de joueurs qui manqueront parce qu'il y en a beaucoup qui méritent de représenter l'équipe de France, être à la hauteur pour rester dans le haut du classement.
Laurent Sempéré au micro de Juliette G.
On finit avec un mot de tennis.
Et c'est le tournoi de Brisbane en ce moment et Joe Wilfried Tsonga a perdu la première manche de sa demi-finale face au Russe Medvedev 7-6. Dans l'autre demi-finale, Jérémy Chardy battu 6-2 par le japonais Nishikori.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir le temps de ce samedi. Pas de surprise Valérie Darmon, il fait froid partout aujourd'hui.
Absolument Fabienne, les maximales varient entre 2 et 7 degrés en général d'est en ouest et 7 à 14 sur les régions méditerranéennes. Vos thermomètres afficheront donc des valeurs en dessous des normales de saison d'ici quelques heures avec 2 annoncés à Clermont-Ferrand, 3 à Poitiers, 4 à Angoulême ou encore à Limoges, 5 degrés à Chambéry, à Rennes et à Nantes, 6 seulement à Paris, à Grenoble, à Lyon et à Toulouse, 7 à Lille et 11 degrés à Marseille et à Nîmes. Pour le ciel, il continue de neiger sur la Lorraine et l'Alsace et d'ici ce soir, il sera tombé 5 à 10 cm sur les Vosges par accumulation. Sur le reste de la moitié nord, le temps est sec mais toujours très, très nuageux. Les éclaircies ne percent qu'en Bretagne et sur les Pays de la Loire. Au sud, le soleil s'impose depuis son lever et jusqu'à ce soir, depuis la Vendée, jusque sur la Méditerranée. Et puis un mot de demain, eh bien c'est pire, couvert partout, sauf sur le pourtour méditerranéen et toujours aussi froid.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, on va revenir sur l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes. Principal lieu de mobilisation pour l'instant, une marche entre les Champs-Élysées et la Bourse à Paris. Le gouvernement parle de manifestants de plus en plus radicalisés. Est-ce la bonne stratégie? On en parle avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Il est mon invité.
Très bon samedi, la suite de votre journal de la mi-journée avec vous, Fabienne Lemoyle et votre invité de la semaine.
Et acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes, on l'a entendu dans le journal, une mobilisation qui s'essouffle. Hier, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dit que le mouvement des Gilets jaunes était devenu le fait d'agitateurs qui veulent renverser le gouvernement. Alors est-ce que l'exécutif ne court pas un risque en voulant solder aussi vite ce mouvement? Que faut-il attendre du grand débat national annoncé pour la mi-janvier? Avec moi en studio pour en parler, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes un spécialiste de nos institutions et de la Ve République, je sais que vous scrutez depuis des semaines déjà ce mouvement inédit des Gilets jaunes. On voit, on l'a entendu dans le journal, qu'il marque le pas en termes de mobilisation, en tout cas dans la rue. Est-ce que ça donne raison au gouvernement qui parle de radicalisation ou est-ce qu'au contraire le pouvoir prend un risque avec ce parti pris?
Alors, un peu les deux, si vous voulez. Il prend un risque dans le sens qu'on a là un mouvement qui reste, si on prend les dernières enquêtes d'opinion en tout cas, extrêmement populaire et qui en plus semble avoir retrouvé une forme d'unité qu'il semblait perdre au moment de l'arrestation d'Éric Drouet. Donc on voit que le gouvernement, là, en ayant une position très martiale, très offensive, eh bien, prend le risque de devenir extrêmement clivant. Or, quand vous lancez un grand débat national, quand vous essayez de reconstruire l'unité du pays, eh bien, apparaître comme fondamentalement clivant, ce qui est la stratégie du gouvernement depuis les vœux d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est donner deux sons de cloche extrêmement différents, créer une dissonance dans la communication et dans l'incarnation. Pour ça, c'est peut-être pas forcément très très habile.
Alors, vous parlez des vœux d'Emmanuel Macron. On va écouter justement Benjamin Griveaux hier, après le Conseil des ministres. Là, il parle de la méthode du gouvernement. C'est avec Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Peut-être avons-nous trop composé avec certains conservatismes. Nous devons aller sans doute encore plus loin dans le changement. Être encore plus radicaux dans nos méthodes, dans nos manières de faire, dans notre style. Nous devons aller au bout de l'envie de changement des Français, car c'est cette envie qui nous a portés au pouvoir et nous ne l'oublions pas.
Voilà, on vient d'entendre Benjamin Griveaux être plus radicaux, aller plus loin. C'est dans la droite ligne justement des vœux d'Emmanuel Macron qui est clairement passé à l'offensive. Vous parlez même d'une offensive défensive.
C'est une offensive défensive. Pourquoi ? Parce que à qui s'adresse là Benjamin Griveaux et avant Emmanuel Macron ? C'est au cœur électoral du macronisme qui est d'accord avec cette idée-là. Emmanuel Macron a été élu sur un programme. Toute sa légitimité dépend de sa capacité à appliquer le programme. C'est ce qui fait le cœur central des électeurs de La République En Marche, qui sont certes très minoritaires en termes démographiques, mais qui malgré tout continuent à soutenir majoritairement le gouvernement et sont qui représente en fait un électorat de centre-ville facilement mobilisable lors d'élections intermédiaires comme les européennes. Donc là, le choix du gouvernement, le choix stratégique du gouvernement, c'est de s'adresser à cet électorat-là, de remobiliser cet électorat-là, quitte à eh bien, perdre un peu tout ce qu'il y a autour, tous les autres électeurs qui aujourd'hui, si on prend les enquêtes d'opinion, apparaissent non seulement se défier du gouvernement, mais même manifester une forme de colère vis-à-vis de l'exécutif.
On voit aussi à l'Élysée qu'on est en train de réorganiser la garde rapprochée avec, entre autres, le départ emblématique du conseiller communication Sylvain Faure. C'est un grand classique après un an et demi de pouvoir avec l'usure ou ça témoigne d'autre chose selon vous ?
Ça témoigne un peu d'autre chose tout de même. Sylvain Faure n'était pas là depuis si longtemps, tout du moins à ce poste. Il était nommé en septembre justement pour tenter de renouer les relations avec la presse après l'affaire Benalla. On voit très clairement que la communication n'a pas été tout à fait le point fort d'Emmanuel Macron au second semestre 2018. Et visiblement, alors vous avez peut-être d'autres informations, moi pour le coup, j'ai pas les sources, mais c'est un départ volontaire de la part de Sylvain Faure. On sait que Ismaël Emelien, qui est également l'un des piliers de la Macronie à l'Élysée, serait peut-être sur le départ. Donc on voit que toute la machine élyséenne aujourd'hui est en train de se repenser, est en train de se décomposer pour se recomposer, mais pour se recomposer comment ?
Et pourquoi ?
Eh bien, en grande partie parce qu'on voit que les dysfonctionnements jusqu'à présent, si on prend l'affaire Benalla, si on prend la crise des Gilets jaunes, ont été à l'Élysée. Le problème d'Emmanuel Macron, comme on l'avait déjà identifié notamment au moment du remaniement, c'est également un problème de ressources humaines. Se passer de Sylvain Faure, se passer peut-être demain d'Ismaël Emelien, c'est une chose. Les remplacer par des hommes de confiance du président, des hommes qu'il connaît et des hommes compétents dans les domaines auxquels il serait nommé, c'est plus compliqué. Et là, on paye un président qui a été élu, mais qui a été élu sans parti, donc sans élite partisane montée à côté de lui et qu'il pourrait éventuellement utiliser.
Alors vous dites élu sans parti ou élite partisane. Or justement, ce profil, les élections européennes, c'est donc lui qui va devoir, Emmanuel Macron, monter en première ligne ?
C'est lui qui
ce
va...
Ce qui n'est pas une tradition dans la Ve République.
C'est pas du tout une tradition, d'abord parce que ce sont des élections qui sont cruelles pour le parti en place. Ce sont des élections qui apparaissent secondaires pour l'électorat. Mais c'est des élections qui, ici, sont très importantes. D'abord parce qu'elles arrivent dans un moment de crise. Ensuite, parce que, l'Europe, tout de même, est le point central, le point nodal de l'idéologie macroniste.
Ce n'est pas juste un test politique pour Emmanuel Macron. Ce
n'est pas seulement un test politique. Symboliquement, souvenez-vous de l'élection d'Emmanuel Macron, de la cérémonie au Louvre avec l'hymne à la joie, c'est quelque chose de vraiment central dans la pensée macronienne. Et ensuite, Emmanuel Macron vient en première ligne, tout bêtement parce qu'il n'y a pas réellement quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de figure qui apparaissent comme une évidence dans l'opinion. On voit qu'il y a un taux de notoriété des ministres qui est extrêmement bas. Et donc, pour ça, Emmanuel Macron, s'il veut pouvoir composer avec Marine Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, doit monter en première ligne, quitte à se mettre en danger.
Il y a aussi ce grand débat qui va s'ouvrir. Une revendication majeure des Gilets jaunes, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire qu'il faut aller vers la démocratie participative ?
Alors, le RIC, ce n'est pas de la démocratie participative, c'est de la démocratie directe. C'est-à-dire que vous adressez directement au peuple. La démocratie participative, c'est quand vous vous adressez plutôt à des corps intermédiaires. Or, on voit que là-dessus même, par rapport aux propos de Benjamin Griveaux, il y a également une rupture. Donc, le RIC, c'est quelque chose qui peut tout à fait être envisagé, qui est envisageable dans beaucoup d'États, mais qui pose un problème sous la Ve République,
pourquoi
si vous voulez. Si jamais Nos institutions sont basées, sont construites sur l'idée d'un président qui est fort, qui est le centre de la vie politique et qui applique son programme. Si ce président, qui est très rapidement impopulaire, sous la Ve République, ce n'est pas une caractéristique d'Emmanuel Macron, voit 2 ans après son élection se multiplier les rics contre sa politique, quelle est encore sa légitimité politique? Quelle est sa capacité à réformer et à agir? Donc c'est possible en Italie, c'est possible dans un régime parlementaire. Le RIC est peut-être une bonne chose, mais si on pense le RIC, il faut probablement penser plus largement nos institutions, notamment eh bien, en réduisant cette omnipotence présidentielle. Pour toutes ces questions-là aujourd'hui, eh bien, le référendum d'initiative citoyenne apparaît plutôt comme un poil à gratter pour le gouvernement.
Et comment on fait pour réduire justement ce nœud essentiel, enfin cette présence essentielle du président de la République qui est quand même la clé de voûte de la Ve République?
Alors il y a plusieurs solutions si vous voulez. Vous pouvez déjà construire des majorités plus composites. Pour ça, il faut une proportionnelle qui soit une vraie proportionnelle, une proportionnelle intégrale éventuellement. Ou alors, il vous faut un vrai régime parlementaire avec un scrutin majoritaire éventuellement, mais ça implique de se passer de quelque chose qui est fondamentalement populaire. Et c'est là que l'opinion n'est pas forcément en accord avec elle-même. Elle veut à la fois le RIC et en même temps, l'élection au suffrage universel du président de la République est extrêmement populaire. Or, en construisant ça, un élu omnipotent, élu au suffrage universel direct et le RIC, vous avez 2 légitimités qui rentrent en conflit et qui, d'une certaine façon, se neutralisent en créant à terme une paralysie institutionnelle.
Merci beaucoup, Benjamin Morel. Et on voit combien va être important, effectivement, ce grand débat qui s'ouvre dans une quinzaine de jours à travers toute la France. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Merci beaucoup
Merci
d'avoir partagé avec nous cette analyse. Vous le savez, on prolonge cette tranche d'information jusqu'à 14h dans Tout Terrain. Nous parlerons du record de fréquentation au Louvre avec Diane Chénouda. Et puis on se mettra dans la peau du héros du dernier roman de Michel Houellebecq. Expérience inédite qu'a fait pour nous Nicolas Carreau.
Et dans quelques secondes, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fabienne. L'essentiel de l'actualité, Fabienne Lemoyle.
Les Gilets jaunes de nouveau dans la rue à Paris pour l'acte 8 de leur mobilisation. Ils sont quelques centaines entre les Champs-Élysées et la place de la Bourse, manifestation autorisée. Quelques rassemblements aussi en région comme à Nice où nous l'avons vu dans le journal de la mi-journée. Ils sont nettement moins nombreux mais toujours aussi déterminés. À Marseille, réunion dans les locaux ce matin prêtés par Bernard Tapie, les locaux de la Provence. Une réunion qui a montré la difficulté des Gilets jaunes à se structurer. Tout le monde n'était pas les bienvenus. 15e jour de shutdown aux États-Unis et Donald Trump qui dit que ça pourrait durer des mois, voire des années. Le journal des sports avec les 32e de finale de la Coupe de France de football, les Pontivy, on va en reparler dans un instant dans Tout Terrain, dans le Morbihan en ébullition, avec ces 2 clubs amateurs toujours en compétition.